Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus-Christ et son Église. Voilà le titre de la série que nous continuons aujourd'hui.
La Bible insiste sur la valeur et l'importance de l'Église. Pour cela, elle emploie plusieurs images pour nous aider à mieux comprendre sa place dans nos vies. Nous allons discuter de ces illustrations en compagnie de notre invité Alain. Alain, bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann pour votre accueil et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une première illustration biblique concernant l'Église pour affirmer que l'Église est le peuple de Dieu. Nous expliquerons aussi ce que cela signifie.
Et vous allez vous appuyer sur quel texte biblique ?
Sur la première lettre de Pierre au chapitre 2, versets 9 et 10. Écoutons Janine qui va en faire la lecture.
Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de prêtres, rois, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce.
Merci Janine. En fait, Pierre, l'auteur de ces versets, cite plusieurs illustrations les unes après les autres. En s'adressant aux chrétiens éparpillés un peu partout en Asie mineure, il déclare non seulement qu'ils sont le peuple de Dieu, mais aussi qu'ils sont une race élue, une communauté de rois-prêtres et une nation sainte. Bien sûr, il existe de fortes ressemblances entre toutes ces images, car leur signification est proche. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder surtout sur le fait que l'Église est le peuple de Dieu.
Merci pour cette précision. Mais qu'est-ce qu'un peuple ? Quelle définition apporter ?
Selon le dictionnaire, un peuple est un ensemble de personnes qui ont la même origine, le sentiment d'appartenir à une même communauté. Elles pratiquent les mêmes coutumes, sont issues de la même culture et ont recours aux mêmes institutions. En Afrique, par exemple, on trouve plusieurs peuples au sein d'un même pays. Chaque peuple a sa propre identité, sa propre histoire, une culture qui lie les individus les uns aux autres, qui crée un sentiment de loyauté, de responsabilité, de solidarité et de communauté. Un peuple est un ensemble de personnes qui ont une longue histoire en commun.
Merci, mais quelle est la pertinence de tout cela avec l'Église ? Un peuple, selon ce que vous venez de définir, a une même origine ethnique. Tandis que l'Église, elle, réunit des personnes venant de races, de tribus ou de nations très diverses. On peut se demander parfois ce que ces personnes ont en commun.
Vous avez raison, Yann, d'insister sur le fait que l'Église est constituée de personnes très diverses. Pourtant, au milieu de cette grande diversité, Dieu a créé un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple a beaucoup en commun. Tant de choses les lient les uns aux autres qui devraient créer ce sentiment de communauté, de loyauté et de solidarité. Cependant, avant d'approfondir ces pensées, il faut remonter dans l'histoire du peuple d'Israël.
Pourquoi ?
Parce que ce qu'écrit l'apôtre Pierre présente des parallèles avec le livre de l'Exode au chapitre 19, versets 3 à 5. Cédons la parole à Janine pour la lecture.
Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit : Voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez mon peuple. Vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte.
Oui, je le constate bien. On découvre une forte ressemblance entre les paroles employées par Dieu alors qu'il s'adresse à Moïse et celles employées par l'apôtre Pierre. Rappelez-nous le contexte de cet extrait du livre de l'Exode.
Le peuple d'Israël fut réduit à l'esclavage en Égypte. Puis par l'intermédiaire de Moïse, Dieu accomplit des exploits merveilleux pour libérer ce peuple de leurs oppresseurs et de leurs ennemis. Dieu les conduisit à travers le désert vers la terre promise. Puis arrivé au mont Sinaï, Dieu prononça ses paroles à Moïse et il établit une alliance avec ce peuple et il leur révéla sa loi. À travers les termes de cette alliance, il est clair que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. Un peuple particulièrement privilégié car il connaît Dieu. Un peuple précieux, un peuple saint et un peuple de prêtres. Le peuple d'Israël est issu d'une même origine ethnique. Tous sont descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cependant, par-dessus tout, ce peuple est uni par cette alliance avec le Dieu éternel. Ils ont en commun cette relation privilégiée avec Dieu.
Alors pourquoi l'apôtre Pierre fait-il allusion à ce texte, à ces événements?
Pierre veut établir que le peuple de Dieu issu de la nouvelle alliance avec Jésus-Christ est tout aussi important que le peuple de Dieu issu de l'ancienne alliance établie à l'époque de Moïse. Même si nous, chrétiens, nous ne partageons pas les mêmes origines ethniques, des vérités très importantes nous lient, car Jésus-Christ et l'alliance établie en son nom nous unissent. De même, comme le souligne l'apôtre Pierre, notre expérience de la grâce de Dieu nous rapproche les uns des autres.
Pouvez-vous préciser ces choses plus en détail, s'il vous plaît? Quelle est, par exemple, notre expérience commune de la grâce de Dieu?
L'identité du peuple d'Israël reposait principalement sur leur expérience vécue de la libération d'Égypte. Cette expérience restait gravée dans leur identité commune ainsi que la commémoration de cet événement lors de la fête de Pâques favorisait la cohésion du peuple. En fait, la libération du peuple de l'esclavage et de l'Égypte était un acte de grâce de la part de Dieu. Le peuple était impuissant et vulnérable à la merci de ses oppresseurs, mais Dieu les a délivrés. Il en est de même pour le chrétien. Pierre affirme que par sa grâce, Dieu nous a fait passer des ténèbres à sa lumière, il fait de nous un nouveau peuple. Il s'agit là d'une libération tout aussi merveilleuse que celle que Dieu a accordée au peuple d'Israël. Les ténèbres représentent tellement de maux. Jésus-Christ nous délivre de l'idolâtrie, de la superstition et de la domination des esprits. Jésus nous libère du péché, de sa culpabilité et de sa condamnation. Jésus nous délivre de l'ignorance et des mensonges spirituels propagés par le monde. Nous étions impuissants, esclaves de tous ces maux opprimants, mais par sa grâce, Jésus est entré dans notre histoire personnelle en libérateur glorieux. Dorénavant, tous ceux et celles qui partagent cette expérience de la grâce de Jésus-Christ font partie du nouveau peuple de Dieu qui vit dans la lumière, du peuple qui jouit jour après jour de la vérité et de la grâce, de la paix et de l'amour, de la joie et de l'espérance.
Merci, oui. Je constate que nous avons beaucoup en commun. La grâce de Jésus-Christ, la délivrance qu'il accorde, son pardon aussi, nous unissent à lui et nous lient les uns aux autres.
En effet, en tant que peuple de Dieu, nous avons une histoire commune, car nos origines remontent jusqu'à la croix, la mort de Jésus, ainsi que sa résurrection. Notre expérience commune de sa grâce et de sa libération découle de ces événements fondamentaux. De même, en tant que peuple de Dieu, notre identité et notre conduite sont façonnées par la même parole. Nous avons en commun la Bible. Ensuite, en tant que peuple de Dieu, nous avons une mission commune, celle comme Pierre l'a définie de célébrer les œuvres merveilleuses de Dieu, ce qui consiste essentiellement à louer son nom et à le proclamer. Enfin, en tant que peuple de Dieu, nous marchons ensemble vers un destin commun. Nous ressusciterons d'entre les morts pour vivre éternellement avec Dieu dans le paradis, la nouvelle création.
Merci Alain. Nous devons malheureusement arrêter notre discussion là. Mais vous serez de retour la prochaine fois pour la poursuivre.
Oui, ayant appris que tout chrétien fait partie du nouveau peuple de Dieu, nous discuterons davantage de ce que cela implique pour nous au quotidien, dans nos relations les uns avec les autres. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.
Merci Alain. À présent, nous allons écouter une courte méditation biblique. Nous reprenons notre série dans la première épître de Jean. Claude nous fera part de ses réflexions. Mais d'abord, Sandra va nous lire 1 Jean, chapitre 3, verset 3.
Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur.
Bonjour à tous. La dernière fois, nous avons appris deux vérités merveilleuses. Celui qui croit en Jésus est un enfant de Dieu. D'autre part, en tant qu'enfant, nous avons une espérance formidable. Quand Christ reviendra, il nous transformera et nous serons semblables à lui. Nous aurons un corps adapté à l'éternité et nous serons comme Christ, parfaitement purs et incorruptibles. Autrement dit, nous ne pourrons plus commettre le mal ou le péché. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur le verset qui annonce « Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. » Quel est le sens de ces propos? Puisque nous savons que nous serons purs pour l'éternité, nous devons, dès maintenant, tendre vers la pureté. Puisque le jour viendra où Christ achèvera en nous son œuvre de transformation et de purification, nous devons coopérer avec lui, aujourd'hui et tous les jours, pour changer de vie. Qu'est-ce que la purification? Imaginez que vous ayez un verre d'eau tiré d'une rivière polluée. Avant de le boire, il est fortement conseillé d'enlever toutes les impuretés, tous les polluants et tous les microbes et de faire en sorte que l'eau redevienne pure. Malheureusement, le cœur humain, c'est-à-dire l'être intérieur, est impur. Notre cœur est pollué par le mal, le péché, et à cause de cela, nous sommes assaillis de mauvaises pensées, assujettis par de mauvaises motivations. Nos paroles peuvent être méchantes, et nous allons jusqu'à commettre divers péchés. En quoi consiste donc notre purification? Eh bien, à partir de cette première épître de Jean, nous pouvons en discerner deux éléments et je parlerai de chacun en plus de détails lors de prochaines émissions. Il suffit de dire aujourd'hui que le premier point consiste à confesser ses fautes à Jésus et de faire confiance en son sacrifice sur la croix pour obtenir son pardon. Deuxièmement, avec l'aide de l'Esprit de Christ, nous devons changer de vie, nous devons nous abstenir du mal et tendre vers la droiture et l'intégrité. Nous devons aussi aimer notre prochain.
Merci Claude. Nous sommes impatients d'en savoir plus. Mais notre émission touche à sa fin. Nos deux séries se poursuivront la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, chers amis, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.